Dans les deux semaines précédentes, nous avons essayé de percevoir quelque chose du livre de Josué. Et nous avons vu que le livre de Josué, en tout cas, était une sorte de recomposition de mémoire d'une expérience. Et donc, ces livres, il faut les prendre sur le plan théologique et pas du tout sur le plan informatif ou historique. Et nous avons vu que la mémoire d'Israël avait exprimé son expérience intérieure comme d'abord une expérience d'oppression en Égypte, puis une expérience de silence, de désert, de cheminement seulement sous la présence, sous le regard de Dieu, mais dans des difficultés sans nombre, c'est-à-dire les difficultés normales de la vie. Et qu'entre l'oppression et cela, ce désert, il y avait eu le passage à travers l'eau. Et alors, il faut faire le passage à travers le feu. L'eau et le feu sont à la fois les deux grands bénéfices de notre vie terrestre, et en même temps, ils sont susceptibles de grands malheurs. Nous le voyons encore aujourd'hui avec le tsunami et la puissance nucléaire. Ce sont toujours les mêmes réalités que nous redécouvrons. Expérience du désert, expérience de solitude, expérience d'une présence de Dieu extérieure à travers cette grandeur des rochers et du désert, mais intérieure, présence intime. Et donc on peut comprendre que les 10 doigts de l'homme servent à découvrir à partir de Dieu ce qu'il a à faire, les 10 commandements. Une main tendue vers Dieu, une main tendue vers les frères et les sœurs. Et on peut comprendre que cette expérience s'exprime de cette manière-là, pour la bonne raison que désert, c'est-à-dire réalité de la terre, avec tous ses aléas, c'est le don de Dieu. Et qu'on découvre combien on est fragile, et combien toute la puissance que l'on peut se donner est au fond très peu de choses. Mais il fallait montrer que ce peuple qui était nomade est arrivé un jour à devenir sédentaire. Et donc c'est un passage de vie extrêmement important. Dieu était présent comme l'expérience du désert. Sera-t-il aussi présent quand on construira des villes? Quand on sera de l'autre côté du Jourdain? On a fait de nouveau avec Josué, le deuxième Moïse, on a fait un passage à travers l'eau de nouveau, mais cette fois-ci, c'est depuis le désert, depuis le feu brûlant, jusqu'à la terre promise. Maintenant, il faut montrer que cette terre promise, mais on ne l'a pas arrachée, elle était là, mais il a fallu la partager. Et que pour partager, il y a un combat à livrer. Et un combat, c'est facile quand on donne un coup de poing à l'autre et qu'on l'étend par terre. Mais un combat intérieur qui dure constamment, c'est beaucoup plus difficile à assumer. Et qui est-ce qui a assumé cela? On ne sait pas. Des nomades qui sont devenus un jour sédentaires et qui sont passés de l'âge du bronze à l'âge du fer. C'est-à-dire qu'ils ont découvert des populations qui habitaient déjà le pays, qui avaient leur dieu, et ce dieu semblait les protéger. Le dieu agriculteur, évidemment, puisque c'était des populations agricoles. Alors, le grand problème intérieur ou religieux qui se posait, est-ce que le dieu du désert, le dieu nomade, le dieu des SDF, peut encore avoir une certaine influence quand on sera fixé, quand on aura un appartement sur une terre et qu'on aura des enfants. Donc il faut nous représenter cette transformation intérieure qui est le passage de Ivri, Ivri signifie un passeur en hébreu, à Israël. Israël qui est fort de Dieu ou fort contre Dieu. Et le livre des juges maintenant, après avoir montré dans le livre de Josué, ça c'est l'historien deutéronomiste qui fait cela, après nous avoir montré qu'il y avait des nomades qui sont devenus sédentaires et finalement ils ont peuplé un pays avec des districts, donc avec un cadastre. Après nous avoir montré cela en gros, ils nous ont fait découvrir, dans le livre des juges, les difficultés de l'homme qui s'installe. Ouh, c'est un problème de s'installer. On a reçu la terre, vous savez, c'est Dieu qui a combattu. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui a combattu. Et c'est Dieu qui a finalement déterminé ce que chaque tribu pourrait avoir comme territoire. Mais vivre, c'est pas facile. Vivre, c'est-à-dire trouver un compagnon, une compagne, faire des enfants, construire des villes, vivre avec alentour des voisins qui ne sont pas toujours des voisins bienveillants, qui deviennent parfois des ennemis. C'est une chose qui n'est pas simple. Et donc s'installer, on a maintenant un territoire, mais il faut s'installer. C'est-à-dire gérer une terre qui ne nous appartient pas, qui nous a été donnée, mais qui ne nous appartient pas. Nous pouvons la gérer, la construire, la rendre utile à nous-mêmes et à nos frères et nos sœurs, mais nous n'en avons pas la possession. Et le fait que nous n'avons pas la possession, c'est que nous sommes mortels. Même si nous la possédons un certain temps, il faudra quand même la céder à nos enfants et nos petits-enfants. Donc il y a toute cette problématique de l'installation quelque part. Fonder un foyer, ça, c'est la vie de chaque homme et de chaque femme, normalement. Et donc ça, c'est le livre des juges. Mais l'auteur doit nous montrer comment petit à petit, ces gens qui venaient du désert et de tribus très différentes, qui se sont installés dans un pays où déjà ils ont trouvé des habitants, comment a-t-on pu s'arranger? Et les tribus venant d'ailleurs vont petit à petit se rapprocher les unes des autres et former des pactes entre elles, des petites unités. On va vers une certaine unité. Ceux qui ont composé le livre se doutent bien, évidemment, que cette histoire s'est terminée par la royauté d'Israël. C'est-à-dire une situation où, effectivement, 12 tribus se sont rassemblées et ont formé une unité, un peuple. Mais il faut en même temps montrer que ce peuple n'a pas obéi à une envie, un désir, mais à quelque chose de plus profond, de plus intérieur. C'est Dieu qui fait l'unité du peuple. Il faut pouvoir dire tout cela. Alors, comment les auteurs du livre des juges, je dis bien les auteurs parce que c'est une longue histoire de nouveau, ce sont d'abord des histoires que l'on s'est racontées dans telle ou telle tribu, des histoires de tribus, des histoires particulières, et que petit à petit on a mis ensemble, et qui sont devenus le bien commun de ce qu'on va appeler un peuple. Et justement, Israël s'est appelé un peuple et non pas une nation. Une nation se rassemble par une volonté humaine, un vouloir vivre ensemble. Donc il y a des intérêts humains primordiaux pour construire un peuple. Et si on ne veut pas, on ne construit pas, on reste extérieur à cette unité du peuple. Tandis qu'une nation pour Israël, Goy, et pas Am, Am c'est le peuple, et Goy c'est la nation, une nation c'est une volonté de vivre ensemble, tandis que le peuple c'est Dieu qui nous rassemble. Et c'est petit à petit qu'on a découvert cela, que nous n'avons pas voulu vivre ensemble, mais nous nous sommes trouvés avec un vouloir vivre ensemble qui nous était donné. Et voilà un peu la caractéristique du livre des Juges. Mais ce pays où l'on va, il n'est pas totalement nouveau. Les arrière-grands-pères de nos arrière-grands-pères étaient passés par là, mais comme des nomades. Abraham, Isaac, Jacob, oui, des légendes, des mémoires, étaient passés par là. Et donc, petit à petit, on découvre ce qu'est une promesse et un accomplissement. Ces gens-là, Abraham, Isaac et Jacob, ben on leur donne, on les rend bénéficiaires d'une promesse. Mais quand est-ce qu'on découvre que quelque chose était promesse? Ben quand ça se réalise. Ah oui, il y avait déjà des signes autrefois. Maintenant, c'est réalisé. Vous voyez, promesse accomplissement, je vous ai dit que c'était un des éléments importants du livre de Josué. Mais c'est une réalité qui se forge petit à petit. On est déjà passé par là. Non, pas nous, mais nos pères étaient passés par là. Et maintenant, on hérite du pays sur lequel ils étaient passés en nomade, mais cette fois-ci, on en hérite comme des sédentaires. Ce pays nous est donné. Donc voilà la transformation que nous font faire les livres de Josué et des Juges. Alors, à la page 38 du syllabus, je vous donne avec Jacques Cazot un petit résumé de ce qui se passe sur le plan de l'histoire. Maintenant, on va regarder sur le plan de l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on avait. Eh bien voilà, la situation internationale de l'époque reste assez confuse. Donc archéologiquement, on ne trouve pas beaucoup d'éléments du fait des migrations qui brassent des peuples du Proche-Orient. Donc Israël n'est pas le seul. C'est l'époque où les tribus indo-européennes descendent en cascade vers la Méditerranée. On descend vers la mer. Les dix peuples de la mer tentent d'envahir l'Égypte et finalement repoussés par Ramsès III, voilà, on a quand même quelques éléments d'histoire. Ils viennent s'installer sur la côte au-dessus de Gaza. Bande de Gaza. Ça, ce sont les Philistins, les Plishtim. Et on va justement donner à Israël le nom de leurs ennemis. La Palestine, c'est le pays des Philistins. Curieux, hein ? Ces Philistins ont donné leur nom à la bande de territoire que nous appelions la guerre, hein, nous, c'est-à-dire les Romains qui ont donné ce nom, la Palestine. De son côté, plus à l'est, la Mésopotamie subit des invasions nordiques. Et donc ces grands pays, ces pays importants, le Khati, Assur, Babel, qui sont des royautés, mais beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes qu'Israël, et qui veulent le pouvoir, qui veulent de plus en plus de territoire. Mais ils se battent les uns contre les autres pour savoir qui va dominer. Entre la Mésopotamie et l'Égypte, et donc plus près d'Israël, circulent des peuplades variées, sémites et autres. On se trouve devant un brassage de population. Nos Philistins, avec leurs armes de métal travaillées, occupent la côte et ils sont considérés comme invincibles. Ils ont déjà le fer, qui est plus important, beaucoup plus solide que le bronze. Les Phéniciens occupent le Liban, Phéniciens ou Philistins, ce sont les mêmes gens de la mer, qui viennent probablement des îles, Crète, Crétois, et peut-être aussi du sud de la Grèce. Et c'est leur civilisation qui nous donne l'image la plus approchante de ce que furent les Cananéens, dont la Bible fait un épouvantail pour les Hébreux. Les Cananéens deviennent l'ennemi numéro un. L'ennemi pourquoi ? Parce que ce sont des idolâtres, parce que ce sont des gens qui ont des dieux multiples. Et quand on a des dieux multiples, on ne sait pas si ces dieux ne se font pas la guerre les uns aux autres, comme les hommes. On se fait des dieux à l'image des hommes. Voilà donc à la page suivante, à la page 39, je vous donne une carte qui est au fond la réplique du cadastre tel qu'on peut l'imaginer maintenant, en découvrant les sites, en tout cas les sites qui ont été fouillés. Et vous verrez que sur cette carte à la page 39, il y a beaucoup de points d'interrogation devant le nom d'un site particulier, ça veut dire on n'en est pas sûr. Quant à la page 40, je vous donne une autre carte qui est intéressante, parce qu'elle vous montre en hachuré, vous avez vallée de Israël, au nord de la Samarie, puis la plaine de la Shephéla et la plaine de Charod, le long de la mer, ça ce sont les territoires, vous avez la bande de Gaza là, précisément, là. Toujours eu des problèmes de ce côté-là, hein. Cette bande de Gaza, ce sont les territoires que les Philistins ont pris à partir de la mer. Et donc ce sont les terres basses près de la mer. Et vous avez la vallée de Israël, ça c'est une vallée fertile, importante. Et puis vous avez une autre vallée un peu plus bas, Gezer, Ayalon, Yebus, c'est l'ancien nom de Jérusalem, les Jébuséens, les habitants de la région de Jérusalem. Vous voyez que ce sont les vallées ou les terres basses. Et ces terres basses sont les terres fertiles qui ont été habitées les premières. Alors, quand des nomades viennent de la Transjordanie, donc de l'au-delà du Jourdain, hein, de l'Est, qu'ils ont passé le Jourdain, s'ils veulent s'installer, ils doivent commencer par s'installer dans les hauteurs, c'est-à-dire les terres plus arides, et faire tout un travail, hein, pour rendre la terre meuble et la rendre féconde. Vous voyez, mont d'Éphraïm, mont de Juda, tribu du Nord. Et donc, les Cananéens, ce sont, au fond, hein, ce qu'on appelle les Cananéens dans la Bible, ou bien les Amorites, bien, ce sont les territoires hachurés. Alors, vous avez encore dans les annexes, une annexe sur laquelle nous allons revenir, qui vous rend compréhensible la manière dont le territoire va être petit à petit occupé, disons comme ça, occupé par des implantations hébraïques. Un peuple en voie d'unification. Alors, à la page 41-42, ce dont nous parle justement le livre des juges, il y a des ennemis, extérieurs, qui voudraient avoir les territoires que pour le moment on gère, parce qu'on les a fait, on les a rendus féconds, et donc les autres lorgnent vers ce pays où coule le lait et le miel. Eretz zavat chalav udvash. Et ce mot est important. Ce mot est important et est devenu même un chant en Israël, un chant populaire. Eretz zavat, zavat, c'est le mot zouv, la racine zouv, c'est la racine de la menstruation féminine. Donc c'est la terre dont la menstruation, c'est-à-dire dont la fécondité est chalav, le lait, c'est-à-dire le gras, ou de vache, c'est-à-dire le sucré. La fécondité est exprimée par chalav, le lait et le miel. Mais donc la terre est comme personnalisée. La terre où coule le lait et le miel. Mais vous voyez que ça devient une sorte d'expression mythologique qui dit le délice, comme le jardin d'Éden, c'était le jardin de bonheur, du délice. Ainsi, cette terre devient, au fond, ce qu'on désire que toute terre devienne, c'est-à-dire productive. Et donc, il y a des affrontements. Affrontements intérieurs, affrontements locaux. On ne s'entend pas très bien. C'est pas facile de diriger même une petite tribu. Les clans ne sont pas toujours d'accord. Tiens, c'est drôle. Hein. Il y a des ennemis du dedans, il y a des ennemis du dehors. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Nous ne sommes pas encore tout Israël. Hein. Il y a des tribus. Des tribus qui se sont fixées d'un côté et de l'autre. Mais qui continuent de recevoir d'autres tribus qui arrivent. Mais on voudrait quand même se mettre ensemble, surtout contre les ennemis extérieurs. L'union fait la force, il paraît. Il faut pouvoir se défendre contre ceux qui nous attaquent. Et donc, il faut s'installer dans des villes, protéger ces villes par des remparts, mettre des vigies, des gardes. Et donc il y a tout un système hein, qui va organiser en quelque sorte les cités. D'une manière ou d'une autre, chaque tribu le fait à sa manière. Et chaque tribu a son histoire. Et de temps en temps, il y a dans une tribu ou dans l'autre un homme qui surgit. Ce n'est pas une dynastie. Ce n'est pas une institution, non. Ce sont des chefs charismatiques qui se découvrent tout d'un coup chefs. Et qui, ou bien prennent les armes, ou bien organisent le territoire de telle manière que l'unité ou la paix, une certaine paix en tout cas, se fait à travers les différents clans qui composent les tribus. Eh bien, c'est cette histoire que nous raconte par bribes et morceaux le livre des juges. Et ils font une attention bien particulière au couple, à la relation entre homme et femme. Dans le livre de Josué, nous n'avions qu'une femme qui était mise en évidence, c'était Madame Rahab, qui a donné la clé de la ville de Jéricho, c'est-à-dire la clé de la terre promise, aux armées de Josué. Mais les tribus qui se trouvent là, qui sont entrées, ou qui se trouvaient déjà là, parce qu'elles étaient entrées quelques années avant, quelques dizaines ou centaines d'années avant, nous sommes entre 1250 avant Jésus-Christ et 1050 avant Jésus-Christ, donc ça fait 200 ans, 200, 250 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé qu'il y a eu de ces chefs charismatiques qu'on appelle des chauffetim. Un chauffet, c'est un juge. Mais attention, un juge en Israël, c'est quelqu'un qui rend la justice, mais qu'est-ce que c'est que rendre la justice? Qu'est-ce que c'est que shafat ou mishpat, hein, des termes qui arrivent souvent dans la Bible? Ce sont des gens qui protègent ceux qui n'ont aucun droit, qui n'ont pas voix, une voix autoritaire. Donc le juge est essentiellement celui qui rend sa dignité à celui qui n'en a plus. C'est ça juger. Ce n'est pas du tout, pas encore en tout cas, donner un droit au tribunal. Pour bien comprendre maintenant comment les choses se sont faites, nous devons retourner fort en arrière. Nous devons retourner au livre de la Genèse. Ah. Parce que, pour découvrir cette unité, il va falloir prendre conscience qu'on est de la même famille. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Qu'est-ce que c'est qu'une proximité naturelle? Et alors, à ce moment-là, les légendes, les personnages antiques, on va s'en souvenir, on va leur refaire une histoire. Et pour découvrir qu'on doit faire l'unité, il faut montrer qu'on vient de l'unité et que l'unité est beaucoup plus importante que celle que nous faisons. Il faut découvrir une unité, comme nous découvrons aujourd'hui, la solidarité entre les hommes. Il faut découvrir que l'unité est première, avant d'être de races différentes. Mais on est homme et on est femme. Alors, on imagine l'histoire du père d'une multitude, Avraham, Abraham. Ce père qui avait un clan et qui a commencé à découvrir que Dieu était unique. Il a transmis la vie à ses enfants, une vie impossible, parce qu'elle vient de Dieu, uniquement de Dieu. Il a transmis la vie, mais cette vie, c'est une foi en ce Dieu. Et Isaac, Yitzhak, le sourire de Dieu, Isaac, c'est vraiment celui à qui on transmet cette réalité profonde, c'est-à-dire cette relation que l'on a avec Dieu. Et puis nous avons Yaakov, Jacob, le supplanteur, celui qui était le plus jeune, mais qui prend le droit d'aînesse à son frère, donc celui qui n'avait pas de puissance et en reçoit une. Et on va vous raconter l'histoire de cet Abraham, de cet Isaac, de ce Jacob. Et on va vous montrer que ce Jacob doit aller chercher femme ailleurs, dans la souche de ses ancêtres. Et puis, il travaille pour son beau-père Laban. Et vous avez au chapitre 30e de la Genèse l'histoire des enfants de Jacob. Ah, très important ça. Il a quatre femmes, ce Jacob. Il a quatre femmes, ça veut dire il est le père de différentes tribus. Et chaque femme, chacune de ces femmes, il travaille pour la cadette Rachel, mais on lui fourre à la place l'aînée, Léa. Vous avez toute cette histoire, les deux mariages de Jacob, là au chapitre 29e et 30e de la Genèse. Mais c'est très important parce que ça nous montre qu'il y a des souches différentes dans cette population. Il y a les enfants de Léa, il y a les enfants de Rachel, et au début elle ne peut pas avoir d'enfants. Et puis il y a les enfants des servantes de chacune d'elles, Bilha et Zilpa. Rachel, voilà, attendez, je suis au chapitre 29e à la fin. Donc Laban donna sa servante Bilha comme servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel et il aima Rachel plus que Léa. Il servit chez son oncle encore sept autres années. Donc voilà qu'il travaille 7 ans pour avoir la première, puis 7 ans pour avoir la seconde et il travaillera encore 6 ans. 20 ans. Le Seigneur vit que Léa était délaissée et il la rendit féconde, tandis que Rachel demeurait stérile. Voyez comment on raconte l'histoire. Léa conçut, et elle enfanta un fils qu'elle appela Réou. Venez, regardez, un fils. Ruben. Car, dit-elle, le Seigneur a vu ma détresse, maintenant mon mari va m'aimer. Elle conçut encore et enfanta un fils. Elle dit, le Seigneur a entendu que j'étais délaissée, et il m'a encore donné celui-ci. Et il l'appela Shimon. Il a écouté, il a entendu le Seigneur. Shimon, l'écouta. Elle conçut encore et l'enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai donné trois fils, et elle l'appela Lévi, c'est-à-dire la colle. Elle s'attache, ça glutine. Elle conçut encore, et elle enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je rendrai gloire au Seigneur. C'est pourquoi elle l'appela Yehuda, rendre gloire, la louange. Puis elle cessa de voir des enfants. Voilà quatre tribus. Ces quatre tribus vont se fixer au sud. Elles étaient déjà fixées, d'ailleurs, ce sont les plus anciennes qui se sont fixées. Ils n'ont pas été en Égypte, ceux-là. Il y a les quatre tribus du sud. Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Lévi ne va pas avoir de terre. Lévi, ce sont vraiment des embêtants pour tout le monde. Ils ne cherchent querelle, ils cherchent querelle à tout le monde, les Lévites. Alors, on ne va pas leur donner de terre parce qu'ils vont tout le temps se disputer. On va leur donner une place au sanctuaire. Et là, puisqu'ils sont violents, ils pourront découper de la viande. Hein. Ça fera de bons bouchers. Les Lévites, c'est ça. Les prêtres, ce sont d'abord des bouchers. Rien à faire. Et on fait passer sa violence. Et donc, vous voyez, vous avez cet ensemble. Alors, on va les faire, hein, les enfants d'une même mère. Les tribus étaient déjà installées de toute première au sud. Et puis, il n'est pas sûr que celle-là soit allée en Égypte. Elle n'en avait en tout cas pas aucun souvenir. Oui, mais Rachel, qui était quand même plus aimée que Léa. Léa, ça veut dire la fatiguée. Hein. Elle avait les yeux ternes. Tandis que Rachel, c'était une brebis mère. Ouais. Terme. Léa, c'est la vache. Tandis que Rachel, c'est la brebis mère. Oui, oui. Les noms disent toujours quelque chose de l'être, hein, dans la Bible. Rachel, voyant qu'elle-même ne donnait pas d'enfant à Jacob, devint jalouse de sa sœur. Ah, voyons. Les deux grands problèmes dans la vie en commun, c'est la jalousie et l'idolâtrie. Et généralement, la jalousie mène à l'idolâtrie. On veut avoir ce que l'autre a. Pourquoi ? Puisque c'est ce que l'autre a. C'est bien pour, bien pour lui, pour elle. Pourquoi vouloir avoir ce qu'il a ? On est différent quand même. La jalousie, c'est vraiment la poisse. Parce que la jalousie mène à l'idolâtrie, à l'absolutisation de certaines valeurs. Fais-moi aussi avoir des enfants ou je meurs. Jacob s'emporta contre Rachel. Il dit, est-ce que je tiens la place de Dieu qui t'a refusé la maternité ? Elle reprit, voici ma servante Bilha. Va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux. Par elle, j'aurai moi aussi des enfants. Ah, voilà, c'est la solution humaine, la mère porteuse. On n'a pas d'enfant, ben, on prend une mère porteuse. Voilà, et qu'elle enfante sur mes genoux. Elle lui donna donc pour femme sa servante Bilha, et Jacob s'unit à celle-ci. Bilha conçut et enfanta à Jacob un fils. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, même il m'a exaucé, il m'a donné un fils. Et elle va l'appeler Dan, justice. Dan, Din, hein, c'est la racine de la justice. Bilha, la servante de Rachel, conçut encore, et elle enfanta Jacob un second fils. Rachel dit, j'ai lutté contre ma sœur, des luttes de Dieu, et je l'ai emporté. Et elle l'appela Nephtali. Patal, hein, je veux dire lutter. La racine patal, Nephtali. Et je l'ai emporté. Ça veut dire que nous avons deux tribus, la tribu de Nephtali, la tribu de Dan, qui sont d'une autre origine. C'est pas la même. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Ah oui, mais c'est elle maintenant qui redevient jalouse. Hein. Prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Elle voit, c'est un bon système. Hein. Zilpa, la servante de Léa, enfanta à Jacob un fils. Léa dit, par bonne fortune, elle l'appela Gad. Gad, Gadad, veut dire, hein, ça va bien. Bonne fortune. Zilpa, la servante de Léa, enfanta Jacob un second fils. Léa dit, pour ma félicité, car les femmes vont me féliciter, elle l'appela Asher. Asher qui veut dire allégresse. Encore deux autres tribus. Des tribus qui sont d'une autre souche, d'une autre origine. Et on construit toute la palette du cadastre d'Israël que nous avons vu dans le livre de Josué. Étant sorti au temps de la moisson des blés, Ruben trouva dans des champs des pommes d'amour. Ces pommes d'amour, ce sont des mandragores. On pensait que quand on mangeait cette sorte de pommes, on devenait féconde. Trouva dans les champs des pommes d'amour qu'il apporta à sa mère Léa. Rachel dit à Léa, donne-moi s'il te plaît des pommes d'amour de ton fils. Parce que c'est elle qui est tout à fait jalouse, elle n'a pas encore eu d'enfant. Mais Léa lui répondit, n'est-ce donc pas assez que tu m'aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les pommes d'amour de mon fils? Rachel reprit, eh bien qu'il couche avec toi cette nuit en échange des pommes d'amour de ton fils. Lorsque Jacob revint des champs le soir, Léa sortit à sa rencontre et lui dit, il faut que tu viennes vers moi. Car je t'ai pris à gage pour les pommes d'amour de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle conçut et l'enfanta Jacob un cinquième fils. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela Issachar, un homme qui est mon salaire, Issachar. Probablement une tribu esclave, hein, une tribu au service d'une autre tribu. Issachar, un homme de salaire, des salariés, des mercenaires. Léa conçut encore et elle enfanta Jacob un sixième fils. Léa dit, Dieu m'a fait un beau présent, cette fois mon mari m'honorera, car je lui ai donné six fils. Et elle l'appela Zebulun, Zabulon, c'est-à-dire le prince. Ensuite, elle enfanta une fille. Elle l'appela Dina, aussi la justice. Hein, Dan, Dina. 7. 6 fils, une fille. 7. Alors, Dieu se souvint de Rachel. C'est comme ça qu'on dit. Quand on n'a pas eu d'enfant pendant longtemps, Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Elle conçut et elle enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Hein, ne pas avoir d'enfant, c'est une honte. Et elle l'appela Yosef. Yosef, qui grandit, qui s'accroît. Hein, on dit, allez, qu'il ne soit plus le seul maintenant. Hein, j'en ai un second. Que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Et puis finalement, nous allons avoir quand il la vint vers Bethléem, elle enfanta encore Benjamin. Elle a voulu l'appeler Ben Oni, hein, le fils de ma misère. Mais Jacob l'appela Benjamin, le fils de la droite. Et ce fils, Joseph en Égypte, hein, si vous vous rappelez toute l'histoire, il a eu deux fils, Ephraïm et Manassé. Il n'y a pas de tribu de Joseph, mais il y a une tribu d'Ephraïm et il y a une tribu de Manassé divisée en deux. Qu'est-ce que cette histoire nous raconte? Cette histoire nous raconte que les 12 tribus d'Israël qui ont vu le jour, commencer à voir le jour vraisemblablement à l'époque de la royauté, c'est-à-dire David et Salomon, mais surtout à la réforme de Josias en 622, que ce système des 12 tribus d'Israël qu'on a voulu comparer parfois à une amphictyonie, c'est-à-dire un ensemble de tribus qui avaient un sanctuaire commun dans les villes grecques, on a pensé que ce qui était en Grèce de l'autre côté de la mer avait existé également en Israël, mais on s'est rendu compte, je vous raconte toute l'histoire aux pages 43 et 44, l'histoire de la conclusion des savants, Martin Note surtout, on est arrivé à découvrir que le système des 12 tribus d'Israël est tout à fait spécifique à Israël. Mais on a voulu, en vous racontant cette petite histoire des fils de Jacob, nous faire découvrir que même si nous sommes de tribus différentes, c'est-à-dire de souches, d'origine, de mères différentes, nous avons des choses en commun. Et qu'il nous faut découvrir ce qu'est précisément le bien commun. Et c'est ce que le livre des juges va nous amener à découvrir. Que nous avons des choses en commun parce que nous sommes des hommes et des femmes de la même race humaine. Et c'est pourquoi, à la page 47 du syllabus, vous trouvez le plan du livre des juges. À un moment où on est déjà unifié, à un moment où on s'est transmis ces histoires de famille, à un moment où chacun a passé d'une tribu à l'autre ses livres, ses albums familiaux et ses photos, pour découvrir qu'est-ce qui nous met ensemble. Non pas parce que nous l'avons désiré, mais parce que nous nous sommes trouvés un beau jour ensemble. Comment, étant différents, peut-on construire quelque chose? Et deux introductions ouvrent le livre. Les chapitres 1 à 2, 5 résument l'installation en Canaan. Et ce sont probablement des documents assez anciens qui ont été mis ensemble, hein, pour unir ce livre des juges au livre de Josué. Nous n'avons pas malheureusement le temps de tout reprendre, mais on pourrait le montrer à partir des textes. Et puis, très important, les chapitres 2, verset 6 jusqu'à 3-6, présentent des considérations générales sur la période des juges, mais là nous avons le point de vue, ça ce ne sont plus uniquement des vieilles archives, mais le point de vue de l'historien deutéronomiste. Et donc, ce passage est très important, 2-6 à 3-6. Je vous donne un petit exemple. On va évidemment décrire la mort de Josué comme on a décrit la mort de Moïse à la fin du Deutéronome, évidemment, hein, puisque c'est le continuateur, il faut qu'il fasse la même chose. Hein. Alors Josué congédia le peuple et les Israélites se rendirent chacun dans son domaine. Chacun doit s'installer dans son domaine pour occuper le pays. Le peuple servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué et toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient connu toutes les grandes œuvres que le Seigneur avait opérées en faveur d'Israël. Vous voyez le petit refrain de Deutéronomiste. C'est-à-dire le rapport qu'on a avec le Dieu unique. Josué, fils de Noun, serviteur du Seigneur, et vous savez que ce terme de serviteur du Seigneur n'est pas donné à tout le monde, mourut à l'âge de 110 ans, 10 de moins que de Moïse, évidemment, un peu en dessous. Hein. On l'ensevelit dans le domaine qu'il avait reçu en héritage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Et quand cette génération en son tour fut réunie à ses pères, une autre génération lui succéda, qui ne connaissait pas le Seigneur, ni ce qu'il avait fait pour Israël. On perd le souvenir. Donc il faut redécouvrir le Seigneur. Et il faut chaque fois revenir à cette découverte du Seigneur. Et dans chaque tribu. Alors, quand on est dans la panade, paumé tout à fait, qu'est-ce qu'on fait? Ah! On crie vers le Seigneur. Et le Seigneur envoie quelqu'un. Et puis ce quelqu'un rétablit la situation. Et puis quand tout va bien de nouveau, on oublie le Seigneur. Et c'est tout le temps comme ça. Et le livre des juges nous donne constamment ce petit refrain. Alors les enfants d'Israël firent ce qui déplaît au Seigneur, ils servirent des Baals. Ils délaissèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. On ne sait plus qui a un libérateur. Et ils suivirent d'autres dieux parmi les peuples d'alentour. Ils sont quand même bons aussi, hein, les autres. Hein. On va lécher toutes les vitrines. Hein. Ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent le Seigneur, ils délaissèrent le Seigneur pour servir Baal et Astarté. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. La colère du Seigneur, ça veut dire qu'il a mal parce qu'on l'oublie. C'est ça sa colère. Alors il se signale. Il les abandonna à des pillards qui les dépouillèrent, il les livra aux ennemis qui les entouraient, et ils ne furent plus capables de leur résister. De toute leur expédition, la main du Seigneur intervient contre eux pour leur faire du mal, comme le Seigneur leur avait dit et comme le Seigneur leur avait juré. Il les réduisit ainsi à une extrême détresse. Vous voyez que le Seigneur revient à tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi Dieu fait-il du mal? Il ne fait pas du mal, Dieu. Mais lorsque nous faisons du mal, lorsque nous ne découvrons pas que notre force est le Seigneur, nous lui faisons du mal, nous le mettons en colère, en nous. C'est la force de son amour qui prend le visage de la colère pour celui qui ne découvre plus l'amour. Alors le Seigneur leur suscita des juges. Vous voyez comment on raconte l'histoire ? Et il sauva les Israélites de la main de ceux qui les pillaient. Mais même leurs juges, ils ne les écoutaient pas. Ils se prostituèrent à d'autres dieux, ils se prosternèrent devant eux. Bien vite, ils se sont détournés du chemin qu'avait suivi leur père, dociles au commandement du Seigneur. Ils ne les ont point imités. Lors donc que le Seigneur leur suscitait des juges, le Seigneur était avec le juge et il les sauvait de la main de leurs ennemis tant que vivait le juge. Car le Seigneur se laissait émouvoir quand il gémissait sous le joug de leur oppresseur. Mais le juge mort, ils retombaient et faisaient encore pire que leur père. Ils suivaient d'autres dieux, les servaient et se prosternaient devant eux, ne renonçant en rien aux pratiques et à la conduite endurcie de leur père. La colère du Seigneur s'enflamma, etc. Et on reprend l'histoire. Il est très difficile de découvrir Dieu sans Dieu. Lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes, lorsque nous n'avons plus une boussole, nous n'avons plus de direction. Et c'est ce que ce texte veut nous dire comme la leçon qui est à apprendre à partir de ce qui s'est passé. Car Dieu travaille avec ce qu'on lui donne. Et c'est ce que l'auteur de l'histoire deutéronomiste veut essayer de nous dire. Notre histoire humaine est souvent une histoire très matérielle, très centrée sur nous-mêmes. Et nous oublions pourquoi nous existons. Et qui nous a fait exister? Et pourquoi y a-t-il des ennemis? Eh bien justement, les ennemis sont faits, et c'est ce que le début du chapitre 3e vous dit, les ennemis sont faits pour nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas grand-chose et que nous sommes très vulnérables. Et que notre force n'est pas en nous, que notre force nous est donnée. Et alors, on va vous raconter d'abord un premier ensemble de 5 juges de tribus différentes, Otniel, Ehud, Shamgar, et puis la fameuse histoire de Déborah et Barak. Il faudra revenir sur Déborah, bien sûr, hein, nous ferons ça l'an prochain, parce que Déborah, le premier prophète en Israël, est une prophétesse. Déborah, l'abeille. Tandis que Barak, qui veut dire l'éclair, est un homme, c'est un juge, mais un faible. Il n'a pas la force, il n'a pas le pouvoir de décision. Et justement, il a besoin d'une prophétesse à côté de lui pour lui dire, c'est maintenant que tu dois aller. Et puis l'histoire de Gédéon. Vous voyez, cinq juges, Otni, Elihud, Shamgar, Déborah, Barak plutôt, et Gédéon, des vieilles légendes. Des vieilles légendes qu'on a mis ensemble. Mais ces légendes ont quelque chose d'important, de commun. C'est que ils fondent des foyers qui sont unis. Il y a quelque chose, il y a, comment dirais-je, mais même s'il y a des guerres et des difficultés, ils parviennent à s'unir et la femme a une importance capitale. Déborah, et puis dans l'histoire de Gédéon, avec Manoah. Nous verrons ça la fois prochaine. Et puis, au chapitre 9e, il y a quelque chose de bizarre. Il y a un certain Abimélec qui devient roi, qui est un descendant de Gédéon, et pas le bon, hein, c'est pas un fils naturel. Physique, naturel. Mais c'est un fils qui vient d'ailleurs, d'une autre femme. Et lui, il a des prétentions, il veut devenir roi. Ah, voilà l'idée de royauté qui commence à germer. Le roi est celui qui va faire l'unité. Tiens, le roi va faire l'unité. Le juge, mais il vient à une certaine époque, et puis dès qu'il est fini, on recommence la vie d'autrefois. Mais il faudrait le roi. Mais le roi, c'est une continuité. Une continuité dans l'autorité. Et alors vous avez cette petite histoire, je vous la raconte tout de suite en prenant le chapitre 9e. Il y a l'enfant Abimelec, fils de Yérobal. Yérobal, c'est Gédéon. 120 à Sichem, père de frère de sa mère. Et il adressa des paroles à sa mère. Fais-nous donc entendre ceci. Je vous prie aux notables de Sichem. Que vaut-il mieux pour vous, avoir pour maître 70 personnes, tous des fils de Yérobal, ou n'en avoir qu'un seul? Et alors, il y a Yotam qui vient raconter une petite histoire. L'histoire, le surgissement de l'histoire de la royauté. On a tout autour, hein, dans les pays avoisinants, des rois. Autorité, pouvoir, quelle est la différence? On annonça à Yotam, il vient se poster sur le sommet du mont Garizim. Yotam, c'est celui qui a la prétention royale. Et il cria cette voix, « Écoutez-moi, notable de Sichem, pour que Dieu vous écoute. » Tiens, notable de Sichem, ça veut dire que les tribus du Nord avaient déjà commencé à faire l'unité, une certaine unité entre les tribus, mais vers le nord. Il y a des tribus du nord qui s'unissent. Les tribus du centre, ce sont les tribus de, comme il n'y a pas de tribu de Joseph, c'est Ephraïm, Manassé et Benjamin. Ceux qui ont été en Égypte, qui ramènent toute l'histoire de Joseph, etc. Et puis il y a celles du sud qui se trouvaient déjà là. Écoutez-moi, notable de Sichem, pour que Dieu vous écoute. Tiens. Un jour, les arbres se mirent en chemin. Les arbres, c'est toujours les hommes. Hein. L'arbre, dans la Bible, est toujours une sorte de totem de l'homme. Pour oindre un roi qui règne sur eux. Ils dirent à l'olivier, sois notre roi. L'olivier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon huile qui rend honneur aux dieux et aux hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» L'huile, c'est le service. Hein? Alors, est-ce que je dois renoncer au service pour aller me balancer au-dessus des arbres, pour prendre le pouvoir. Alors les arbres dirent au figuier, « Viens-toi, sois notre roi !» Le figuier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à ma douceur ?» L'huile, c'est le gras, hein. La douceur, c'est le miel. « Et à mon excellent fruit, pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Est-ce que c'est l'économique ? Est-ce que c'est le service économique ? Ou bien est-ce que c'est le pouvoir ? Les arbres dirent alors à la vigne, le vin maintenant, « Viens-toi, règne sur nous !» La vigne leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon vin qui réjouit les dieux et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres ? » Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? Tous les arbres dirent alors au buisson, puisque personne n'en veut, hein, puisque tout le monde préfère le service, au buisson d'épines. Ah ! Le pouvoir, c'est un buisson d'épines. Viens-toi, sois notre roi. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous moignez pour régner sur vous, venez vous abriter sous mon ombre. Il y a un pouvoir, il y a un véritable service. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et il dévorera les cèdres du Liban. Mais celui qui prend le pouvoir et qui devient domination, il met du grabuge partout. Vous voyez, ce petit apologue qui est glissé comme ça au milieu de toute l'histoire des juges est vraiment significatif. Et puis après cela, nous avons, à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 12, d'autres juges, mais ceux-là, ça va moins bien. Les affaires familiales ne sont pas extraordinaires. Vous avez Tola, Yaïr, Jephté, Ibtsan, Elon, Abdon, et on finit le tout par l'histoire de Samson, Shimshon. Shimshon, que nous traduirions par Anatole, le soleil levant. Shemesh, c'est le soleil. Et puis, ça c'est là, il faut toujours lire la Bible comme un livre, hein. Il faut voir quel est le fil. Deux appendices, qu'on appelle appendices. Non mais, ce ne sont pas des appendices. Ce sont des conclusions théologiques. Le crime de Gibéa et la guerre contre Benjamin, hein, ce sont les titres que donne la Bible de Jérusalem ici. Et c'est à propos du sanctuaire. Est-ce que si on se réunit, il faut un sanctuaire ou bien est-ce qu'il en faut plusieurs ? Faut-il plusieurs églises ou n'en faut-il qu'une ? Ah, c'est un autre problème, le problème du local. Est-ce qu'il y a moyen de vivre ensemble en ayant une sorte de communauté, ou bien y a-t-il des petites communautés, y a-t-il une valeur locale ? Mais attention à cela. Et donc ce sont les dangers de la localisation, de la privatisation, dirions-nous aussi. Et le crime de Gibéa et la guerre contre Benjamin nous montrent qu'il y a des rivalités aussi, pas seulement entre les femmes ou entre les hommes, qu'il y a des rivalités aussi entre les tribus. Et donc il y a un problème de solidarité des tribus qui est important. Donc voilà, donné dans son ensemble le livre des juges. Nous allons voir la fois prochaine, hein, deux ou trois textes parmi les livres des juges qui montrent bien cette perspective. Mais vous voyez que cette histoire est une histoire théologique. C'est l'histoire d'une expérience. Et que ce type d'expérience, nous les faisons tous à un certain moment de notre existence. D'abord, existence personnelle, existence de famille, existence de clan, existence de tribu, existence de pays, de région. Et donc, les valeurs essentielles nous sont données à travers une réflexion sur ces livres. Voilà, nous arrêterons là. Vous pouvez lire, évidemment, c'est toujours intéressant de lire les textes eux-mêmes. je vous donne un petit résumé, mais malheureusement c'est qu'un petit résumé, hein, il faudrait le temps de les lire à l'aise, mais vous pouvez, si vous avez un peu de temps, en profiter pour lire ces livres, en vous rendant compte que ce n'est pas seulement de l'information, c'est toute une histoire de formation intérieure. Merci. Les questions sont toujours les bienvenues. Il suffit de les mettre dans mon casier au troisième étage.